On va apprendre à connaître un petit peu mieux ce saint, Saint-Pierre-Julien Aymar, qui est un grand ami du bon Dieu et qui pour nous à la fraternité nous parle énormément parce qu'il est un petit peu au cœur de notre vocation. Parce que Saint-Pierre-Julien Aymar est le fondateur des Pères du Saint-Sacrement. Il a été le grand apôtre de l'Eucharistie. C'est vraiment celui que le Seigneur a choisi, je crois, au siècle passé, avec tant d'autres autour de lui. On voit toute une floraison de saints ou d'amis de Dieu qui brûlent du feu, de faire connaître, de faire aimer le Christ au Saint-Sacrement. Saint-Pierre-Julien Aymar est un petit peu le catalyseur de tous ces saints, et c'est celui qui va répandre la dévotion au Saint-Sacrement. Il sera le fondateur des Pères du Saint-Sacrement. Je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui, parce que on a parlé du feu tout à l'heure, le feu que le Christ est venu jeter sur la terre, et certainement ce feu eucharistique, ce Christ présent dans le Saint-Sacrement, eh bien, a tellement besoin de briller pour illuminer les ténèbres de notre monde. Je crois que le mystère de l'Esprit-Saint est inséparable du mystère eucharistique. Vous le savez, lors de la célébration eucharistique, il y a ce qu'on appelle l'épiclèse, c'est-à-dire l'invocation du Saint-Esprit. Père, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin. Quand le prêtre fait comme ça et impose les mains, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est la première épiclèse, on invoque l'Esprit-Saint, le miracle de la transsubstantiation, c'est-à-dire du changement du pain et du vin en vrai corps et en vrai sang du Christ, et l'œuvre conjointe de la Trinité tout entière, mais c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint par-dessus tout, avec les paroles mêmes du Christ qui sont prononcées par la bouche du prêtre. C'est plus le prêtre qui les prononce, c'est le Christ lui-même, et le Père s'émerveille devant cette œuvre d'amour qui se réalise sur nos autels chaque fois. Et puis il y a une deuxième épiclèse à la messe, c'est quand le Père invoque et demande à l'Esprit-Saint de descendre aussi sur toute l'assemblée, pour que tous nous soyons transformés en notre Jésus. Comme le pain était transformé en corps du Christ, comme le vin était transformé en sang du Christ, bien que tous nous soyons ressemblants à Jésus. C'est très important cela. Vous voyez donc, on est au cœur du mystère de Rouar, ce Dieu dans sa présence eucharistique. Alors on va voir un petit peu ce que Saint-Pierre-Julien Aymar a vécu, ce qu'il nous dit, et ce que aujourd'hui l'Église veut nous dire à travers ce saint, puisque depuis l'année passée, Jean-Paul II a demandé que la fête de Saint-Pierre-Julien Aymar au 1er août soit une fête solennelle, célébrée, une mémoire obligatoire dans toute l'Église universelle. Il y a quelques saints que Jean-Paul II a repris comme ça, et c'est frappant puisqu'il y a Saint-Pierre-Julien Aymar, le patron, l'apôtre de l'Eucharistie, et Saint-Louis-Marie Guénon de Montfort, l'apôtre de Marie. On voit donc aussi le lien qu'il y a entre Marie et l'Eucharistie. Et si Jean-Paul II a demandé à l'Église universelle de célébrer de manière spéciale, solennelle et obligatoire la fête de Saint-Pierre-Julien Aymar depuis l'année passée, eh bien c'est bien parce qu'il veut nous dire quelque chose à travers cette figure. Alors, Saint-Pierre-Julien Aymar est né au début du siècle passé, et au fond, il faut bien voir dans quel cadre il naît. Il naît dans un climat qui suit la Révolution française, l'Église a été profondément attaquée en France, il y a de nombreuses difficultés, les guerres napoléoniennes ont laissé des traces tragiques dans la population, de nombreuses souffrances, des mutilés, des pauvretés immenses. En même temps, on arrive à nier l'existence du Christ. Il y a Renan, un auteur qui écrit la vie de Jésus-Christ. Au fond, il nie complètement la divinité du Christ et il fait de Jésus-Christ une sorte de héros mythologique, comme ça. Enfin, même sans nier l'historicité du Christ, il nie sa divinité. Donc, il vide complètement le mystère chrétien en vidant le Christ avec un style merveilleux qui a séduit beaucoup de gens. À la Sorbonne, un professeur qui dira qu'au fond, la religion, eh bien, c'est une invention de l'homme. C'est uniquement dans l'imagination de l'homme qu'on trouve Dieu, il n'existe pas ailleurs. On verra aussi la montée du libéralisme, de l'économie, alors avec une richesse énorme qui va croître, et en même temps la pauvreté des ouvriers, enfin au cœur d'un monde en plein chamboulement, d'un monde bouleversé. Il va y avoir deux signes importants que Dieu va faire à l'humanité. C'est Marie, les grandes apparitions mariales de la rue du Bac, de Lourdes, de la Salette plus tard, et puis ça va être la dévotion eucharistique. Voilà, comment Dieu vient dans un monde qui perd la tête, dans une humanité qui perd le sens de Dieu, qui perd l'amour de Dieu, rappeler sa miséricorde. Et on le voit bien que c'est à travers un signe d'humilité, un signe de pauvreté. Il vient avec la simplicité de Marie, la pauvreté de Marie et la pauvreté de sa présence eucharistique au milieu de nous. Nous rappeler sa présence, nous rappeler son amour, nous redire combien il faut revenir à lui avec un cœur humble et pauvre. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis et je te rends grâce d'avoir caché ses secrets aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux petits et aux humbles. Et au fond, le secret de Marie, comme le secret de l'Eucharistie, est caché aux sages et aux savants, il est vraiment révélé aux petits et aux humbles.